La lecture va être un peu longue, mais pas compliquée, parce que c'est un texte qui raconte une histoire. On suit mieux quand c'est une histoire, quand c'est une partie bien doctrinale. Hein. Mais il y a de là aussi, il y a des leçons à tirer, évidemment. Alors, cette histoire se trouve dans 1 roi 13. Hein. Ce matin, on a lu 1 roi 19, et on a donc dans 1 roi 13. Et c'est lorsque Jéroboam a commencé à créer un autel du veau d'or, il en a créé deux, hein, pour empêcher les Israélites d'aller au temple à Jérusalem, hein, parce qu'ils craignaient une fuite, hein, des réfugiés qui aillent donc dans l'autre royaume. Et voilà ce qui se passe dans 1 roi 13. Voici qu'un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. D'après la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel, donc l'homme de Dieu, d'après la parole de l'Éternel, et dit « Autel, autel !» Ainsi parle l'Éternel, « Voici qu'il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il sacrifiera sur toi les sacrificateurs des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on consumera sur toi des eaux d'hommes. » Et le même jour, il donna un signe en disant, voici le signe du fait que l'Éternel a parlé, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi Jéroboam entendit la parole de l'homme de Dieu qui avait crié contre l'autel de Bethel, il brandit la main au-dessus de l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait brandie se trouva paralysée et il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit et le centre et la cendre, l'autel se fendit et la cendre donc se répandit. Conformément au signe qu'avait donné l'homme de Dieu d'après la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel. Et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans ma maison pour te restaurer, je te donnerai un cadeau. » L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas chez toi. Je ne mangerai pas de pain et ne boirai pas d'eau. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. » Tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau et tu ne prendras pas ton chemin, à ton retour, le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui habitait justement Bethel. L'un de ses fils vint lui raconter toutes les actions que l'homme de Dieu avait accompli à Bethel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsque les fils eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Alors il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Et ils scellèrent l'âne et il monta dessus. Il suit l'homme de Dieu et le trouva assis sous le térébenthe. Il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Il répondit, « C'est moi. » Alors il lui dit, « Viens avec moi à la maison pour y manger. » Et il répondit, « Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi, et je ne mangerai pas de pain. Je ne boirai pas d'eau avec toi en cet endroit. Car il m'a été bien dit par la parole de l'Éternel, « Tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin. » par lequel tu seras allé. » Il dit alors, « Moi aussi je suis prophète, comme toi. » Et un ange m'a parlé en ces termes de la part de l'Éternel. « Ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Et lui montait. L'homme de Dieu retourna avec lui et mangea du pain dans sa maison et but de l'eau. Et comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, et parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau à l'endroit dont il t'avait été dit, tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans la tombe de tes pères. Après qu'il eut mangé du pain et bu de l'eau, il scella l'âne pour le prophète qu'il avait ramené, et celui-ci s'en alla, et un lion l'attrapa en chemin et le tua. Son cadavre resta étendu sur le chemin, l'âne et le lion se tenaient chacun d'un côté du corps. Waouh! Hein? Alors, voilà l'affaire dans l'affaire. Quelque chose qui a bien commencé, qui a failli bien finir, mais qui finit d'une manière tragique. Alors, j'ai réfléchi à un titre pour ce message, mais je n'ai pas trouvé d'autre que celui-ci qu'on va écouter. Nathan, s'il te plaît. C'est très court.
Et pourquoi t'as fait ça? Aïe, 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 ne recommence pas.
Voilà. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Vous êtes d'accord avec ça, non? On se demande pourquoi cet homme, ces deux hommes ont fait ce qu'ils ont fait. Voilà. Merci à Philippe qui met tous les dimanches donc les messages sur le site. Hein. Voilà, Philippe, tu as le titre. Voilà. Pourquoi t'as fait ça? Ah. Eh oui. Les deux royaumes se sont divisés. Hein. Jéroboam d'un côté qui était un serviteur de Salomon. Et en bas, nous avons Roboam, qui était un fils arrogant et paresseux de Salomon. Et à cause de l'infidélité de Roboam, Dieu a divisé le royaume d'Israël en deux. Depuis, on entendra parler du royaume d'Israël en haut, les 10 tribus au nord, et du royaume de Juda en bas. Alors, il est évident que Bethel se trouve dans le royaume d'Israël et que l'homme de Dieu, lui, vient depuis Juda, donc c'est pas son territoire. Hein. Alors nous allons poser la question à ces deux hommes. Hein. Pourquoi t'as fait ça donc à l'homme de Dieu? Hein. Pourquoi il a accepté de manger? Et puis nous allons poser la question à ce vieux prophète. Pourquoi est-ce qu'il a il a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il a menti? Hein. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cet homme que Dieu a envoyé porte bien aucun prénom, aucun nom, mais bien, il est nommé par ce terme, homme de Dieu. Il a le privilège, en tant qu'homme de Dieu dans l'Ancien Testament, d'entendre Dieu lui parler directement. Hein? Ce matin, on a lu le prophète Élie. Hein? Il y a Moïse qui a entendu Dieu lui parler directement. Quel privilège! Aujourd'hui, ben, nous sommes aussi un peu tous des femmes et des hommes de Dieu, parce que nous entendons parler. Hein? Dieu nous parlait directement à travers sa parole. Et si vous comptez bien, il exprime 7 fois le terme selon la parole de l'Éternel. Voilà un homme donc qui est privilégié. Alors cet homme a une mission, et sa mission est très simple. Hein. Sa mission c'est ATR, hein. Voilà, une lettre de mission. Ça veut dire aller par un chemin, transmettre la parole de Dieu et revenir par un autre chemin. C'est pas compliqué, non? Voilà, tu vas, tu dis, tu reviens. Simple. Hein? En plus, donc, tu ne vas pas, donc, voilà, tu vas pas t'étaler, hein. Et c'est ce qu'il dit, hein. Car cet ordre, dit-il, m'a été donné par la parole de l'Éternel. Eh bien, tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau, tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Alors, pourquoi ce point qui est signalé, tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau? En fait, c'est le signe du jeûne. Afin d'être concentré ou consacré à une mission particulière. Dans Exode 38, on voit Moïse qui, pendant 40 jours, il est dit, il ne mangea ni pain, il ne but pas d'eau, et il reçut les tables de la loi. Ce que Dieu a demandé à cet homme, c'est voilà ta lettre de mission. Tu es concentre-toi là-dessus. Et cette transmission, évidemment, il va le faire de manière l'affaire de manière très fidèle. Il cria contre l'autel, hein, d'après la parole de l'Éternel. Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Hein. Et puis, en signe de désapprobation, il dit que Josias, un roi futur, hein, fera consumer sur toi les ossements d'hommes. Hein. Et en plus, sa parole est accompagnée de signes. L'autel se fend. On peut dire que ce qu'il a annoncé, ce qu'il a accompli, valide le fait que c'est réellement un homme de Dieu. Pas de doute, il vient de la part de Dieu. Alors ceci dit, est-ce une garantie suffisante pour être gardé d'un piège? Et on voit que ça n'a pas suffi malheureusement. Si Dieu accorde des dons, comme à ce prophète, hein, eh bien ces dons ne sont pas forcément signes de maturité ou de discernement ou d'immunité. Autrement dit, ce n'est pas parce que un homme reçoit certaines capacités accordées par Dieu qu'il est forcément très spirituel. On prend l'exemple de Balaam. Balaam était un prophète, hein, à qui Balak a demandé de maudire Israël. Et Balaam avait été en contact avec Dieu. Et pourtant, à la suite de l'histoire, eh bien, nous apprend que Balaam s'est rebellé contre Dieu. Ses capacités, ses dons, n'ont pas été une garantie suffisante pour le préserver et pour montrer son lien spirituel. Et c'est ce que dit un peu Paul aux Corinthiens, qui était, alors, on dirait aujourd'hui, blindé de dons, hein, une église absolument extraordinaire. Hein. Et pourtant, Paul leur dit, je ne vous loue pas. Non. Car quand vous vous assemblez, le faites non pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, dit-il, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Le problème des Corinthiens, c'était pas les dons. Ils en avaient, et encore plus que nécessaire. Mais leur problème, c'était qu'il y avait des tiraillements. Les dons n'ont pas suffi. Paul dit, il y en a un dit, moi je suis de Paul, l'autre dit, je suis d'Apollos, etc. Et voici que chacun commençait à revendiquer sa propre appartenance. À mon avis, cet homme de Dieu avait une faiblesse. Et je pense que sa plus grande faiblesse, c'était d'être trop sûr de ses dons. Il avait cette assurance. Rendez-vous compte, il parle contre Jéroboam, contre l'autel. Jéroboam s'énerve, hein, il donne l'ordre de le saisir, et là, ben, sa main reste paralysée. Aïe, hein. Et le roi, en fait, Jéroboam, va se soumettre à lui. Prie ton Dieu afin qu'il me rende, eh bien, l'usage de ma main. Et sa main devint comme auparavant, nous dit le texte. On peut même dire que son action à cet homme de Dieu est remarquable. Franchement, hein, il est quelque part plus fort que ce roi d'Israël. À lui tout seul, eh bien, il a arrêté la machine. Hein. Donc, un peu comme Samson. Samson avait des dons spectaculaires. Et malheureusement, ça n'a pas garanti ni sa désobéissance, ni sa fin. Et c'est ce que le livre des Proverbes nous dit. Hein. L'orgueil précède le désastre. Un esprit arrogant précède la chute. Avant le désastre, le cœur de l'homme s'élève. Si Dieu t'a accordé un don, il t'en a accordé, c'est pas la garantie que notre cœur ne peut pas s'élever. Hein. Et c'est vrai que c'est avec beaucoup d'assurance que cet homme parle à Jéroboam, comme aussi avec la même assurance qu'il parle à ce vieux prophète. Quand celui-ci l'invite à sa maison, viens avec moi à la maison pour y manger, eh bien il répondit, je ne puis retourner avec toi et je ne puis rentrer chez toi. Verset 17, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras pas de pain ni boiras d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Alors il a un don, c'est certain, mais évidemment il manque le discernement. Et je pense que le problème que cet homme a rencontré quand il a vu ce vieux prophète, c'est qu'il s'est pris de sympathie pour lui. Et la sympathie a été un piège par la suite. Hein. La sympathie a été plus forte que la vérité. Hein. Nous apprécions tous les gens sympathiques, non? Oui, mais la sympathie n'est pas une vertu. Ah, vaut mieux avoir quelqu'un de sympathique que quelqu'un de grognon, hein, surtout quand on est quelqu'un quelqu'un derrière le guichet hein, qui vous reçoit à l'administration, n'est-ce pas? Mais en réalité, la sympathie n'est pas une vertu. Et voilà que l'homme de Dieu n'a pas discerné, on peut dire aujourd'hui, un détail qui tue. Ah bon, ça a été littéral pour lui. Hein, voilà, un détail. Quand lui dit, eh bien, il m'a été dit par la parole de l'Éternel, qu'est-ce que le vieux prophète a répondu? Ah, il lui dit alors, un ange, je suis prophète comme toi, un ange m'a parlé en ces termes de la part de l'Éternel. La parole de l'Éternel et un ange. Ah, c'est pas le même poids, hein. Et pourtant, il est évident que ce vieux prophète, c'est sûr, le texte l'indique, il lui mentait. Mon frère, ma sœur, ce que nous voyons, ce que nous entendons, doit impérativement recevoir la validation de la parole de Dieu. Pour moi, c'est clair. Vous savez ce que faisaient les Béréens, hein? Ils entendaient, on leur disait, ils allaient vérifier si ce qu'on leur disait était vrai. D'ailleurs, ce qui est très surprenant, c'est que quand Jésus parle à ses disciples, qui lui pose la question de la fin des temps, quel est le premier danger dont Jésus nous parle? C'est celui de la séduction. Il dira, prenez garde que personne ne vous séduise. Voilà un piège. Plusieurs viendront, dit-il, et ils séduiront beaucoup de gens. Si nous n'avons pas la Bible éclairée par le Saint-Esprit, évidemment que nous nous perdrons. D'ailleurs, Satan, dit Paul, se déguise en ange de lumière pour nous tromper. Pourquoi t'as fait ça? On pourrait dire parce qu'il avait certainement trop d'assurance en ses capacités, trop sûr de lui. Ce qui fait qu'il a un peu coupé cette oreille à ce que Dieu lui avait dit. Et malgré son statut de prophète, malgré les grands signes accomplis, l'homme de Dieu a malheureusement manqué sa cible et il a manqué de lucidité spirituelle et il est tombé dans le piège qui lui a coûté sa vie. Alors, maintenant, on va se retourner vers ce vieux prophète. Ah! Hein, on dirait que les problèmes un peu viennent par là, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu raconté cela? Hein, ça, c'est quelque chose. Hein. Alors, le texte nous décrit qu'il était... Or, il y avait un vieux prophète qui habitait à Bethel. Hein, voilà. Donc, il est qualifié de vieux. Alors, ça veut dire, est-ce que c'est un handicap pour un prophète d'être vieux? Je sais pas combien de temps ça cotise un prophète. Hein. Faudrait voir avec les caisses de retraite. Mais en tout cas, Abraham était vieux, non? Moïse était vieux. Daniel, alors le livre de Daniel couvre 80 ans. Quand c'est au début, il est jeune. À la fin du livre de Daniel, il est vieux. Hein, vieillir n'est pas une tare, bien au contraire. Mais ce prophète, il se sent peut-être à la retraite ou hors d'usage. Hein. Et nous pouvons imaginer facilement que quelque part dans son cœur, eh bien, il y a un problème qui commence à naître. Suffisant pour l'amener à mentir. À mon sens, je ne vois qu'une explication, qu'une cause à ce qu'il a fait, c'est la jalousie. Alors, certains disent non, il a voulu, mais je suis pas tellement convaincu. Hein. Je pencherai vraiment sur la jalousie. Ce vieux prophète s'est demandé, certainement avec raison, pour quelle raison lui n'a pas été informé du secret de Dieu, de la pensée de Dieu. Vous savez, c'est Amos qui dit le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Pourquoi y a-t-il un gars qui est venu de plus de 20 kilomètres d'ici et qui a annoncé cette parole alors que moi, je n'étais pas au courant? Pourquoi Dieu l'a-t-il choisi lui? D'ailleurs, il le dit, moi aussi je suis prophète, il le dit, hein. Mais il aurait pu dire à Dieu, mais moi aussi je suis prophète. Pourquoi Dieu l'a-t-il béni lui plus que moi? Aucune révélation ne lui est faite à ce prophète. Il se sent certainement stérile pour l'œuvre de Dieu. Et ce vieux prophète se sent menacé. En tout cas, c'est mon interprétation, hein. Il a bien sûr saisi le témoignage que ses fils ont rendu, mais le regard qu'il va porter sur son frère, à mon sens, est un mauvais regard. Tu sais, la jalousie ravage l'homme qui souhaite obtenir ce que Dieu accorde à quelqu'un d'autre. La Bible est remplie d'histoires de jalousie qui finissent mal, hein, par des meurtres, l'animosité, de l'oppression. De, hein. On a par exemple Caïn et Abel. Caïn qui finalement dit à Dieu, pourquoi est-ce que tu approuves lui et pas moi? La jalousie commence à naître. Il y a aussi les Philistins. Les Philistins qui se posent la question, pourquoi son Dieu le bénit plus lui que nous? Il y a Rachel et Léa. Pourquoi est-ce que Jacob aime plus Rachel que moi? Il y a les 10 frères et Joseph. Pourquoi Jacob considère-t-il plus Joseph que nous? Il y a, vous savez, Corée, les autres rebelles contre Moïse. Pourquoi Dieu a-t-il désigné lui comme seul prophète? Ne le sommes-nous pas nous aussi? Il y a bien sûr Saül et David. Hein, Saül qui dit, attends, j'entends chanter des chants de victoire pour cet homme. Et puis il y a les ennemis de Daniel. Hein, pourquoi a-t-il une plus grande sagesse? La Bible est remplie de ce problème de jalousie. C'est pas juste un sentiment que les autres ont ou que parfois nous ressentons. C'est vraiment quelque chose qui entre dans le cœur de l'homme et qui détruit l'intérieur de l'être. Paul aussi, l'apôtre, a rencontré de la jalousie des judaïsants de Galate dont il dit, tandis que cela annonce le Christ dans un esprit de rivalité. Hein? Notre église fait plus que cela et nous on fait plus que ça. Et voilà la compétition, la jalousie qui arrive. En hébreu, le mot jalousie devrait traduire par rouge foncé. C'est une couleur, hein? Il est jaloux, il est rouge foncé. Hein? C'est le fait que le visage change de couleur. Hein? Le grec utilise le mot zélos, le zèle, mais le zèle amer. Hein? C'est cela, la jalousie. Et elle peut tourner à la pathologie. Hein? On entend parler d'une jalousie maladive. Lorsque Dieu a donné ses 10 commandements, le dernier commandement nous rend sensible à la question de la jalousie, de la convoitise. Hein? Quand on convoite quelque chose que l'on n'a pas, on en est jaloux. Hein? Il a plus, il a ceci que moi je n'ai pas, etc. Et c'est Francis Schaeffer, donc c'est pas le cousin de Luc, hein, c'est un apologète, peut-être ils sont de famille, je ne sais pas, en tout cas c'est un bon apologète qui explique que le décalogue finit par la loi sur la convoitise. Parce que le vrai problème de l'homme est là. Nous convoitons et nous ne possédons pas. Et nous devenons donc jaloux. Et d'après lui, on pourrait lire avec cette dernière loi de la convoitise, hein, à travers ce prisme, nous pourrions lire les 9 autres commandements. Dieu et les idoles. Hein, voilà, la jalousie qui s'installe, etc. Mais c'est bien la jalousie, l'orgueil qui a amené Satan à la chute. Il voulait être comme Dieu. Et il s'est dit, pourquoi est-ce que je n'ai pas la place de Dieu? Et vous savez, quand l'homme a chuté, en fait, Satan a transmis à l'homme le mal dont il était atteint. Et la jalousie, eh bien, nous atteint aussi. Cette jalousie est inscrite quelque part en nous. Nous pouvons transmettre même cette jalousie à nos enfants sans le vouloir. Hein. Deux mamans sont assises, voilà, autour d'un bac à sable et elles discutent. Et le mien, il fait ceci. Et le mien, il fait cela. Hein, et voilà, on commence la compétition. Hein. Peut-être même de manière involontaire. Peut-être même de manière irréfléchie. Hein. Quand des gens sont heureux d'annoncer qu'ils se marient, hein, il y a toute la célébration. Et dans la salle, il y a certainement des célibataires. Pourquoi tu les as bénis, eux, Seigneur, et pas moi? Hein, ça arrive, un jour, une jeune fille m'a dit, mais moi, je ne veux plus aller aux cérémonies de mariage. Ça me ronge. Je suis rongé de jalousie après elle s'est mariée. Hein, voilà. Hein, et en réalité, bon nombre de conflits trouvent leur source dans la jalousie. De collègues de travail, on a fait le même boulot, les mêmes résultats, j'ai peut-être fait mieux, mais lui, il a un avancement. Des étudiants, un qui travaille freestyle, qui a de meilleurs résultats qu'un autre qui bosse. Hein, et voilà la jalousie qui naît. Entre deux voisins, entre deux chrétiens même. Lui, il a quand même plus de dons que moi. Ah, oh, j'aimerais chanter comme il chante, jouer comme il joue. Je n'y arrive pas. Hein. Même entre deux membres d'une même famille. Quand un enfant se sent moins aimé que les autres. Hein. Je connais des familles où les cousines se détestent, hein, vraiment, car elles ont été nourries par la jalousie. Et je pense qu'il n'y a plus rien à faire. Hein. Ça a été ancré. Hein, voilà. Et malheureusement, notre société aime cet esprit de jalousie. Pourquoi ? Parce que ça fait naître la compétition. Deux entreprises vont donner un meilleur chiffre, n'est-ce pas ? Ça augmente les ventes. Hein. Ça produit une performance. Hein. Et on érige même cette convoitise, hein, voilà, au rang de vertu. Ça stimule le progrès, nous dit-on. Alors le vieux prophète, eh bien, arrive avec cet argument. Moi aussi, je suis prophète comme toi. Et pourquoi je n'ai pas reçu ce message, hein? Donc cela va l'amener à manipuler l'autre afin de le faire tomber. En tout cas, c'est ce que je pense, hein. La Bible nous dit la jalousie est la carie des eaux. Hein, alors je ne sais pas ce que c'est la carie des eaux. Ostéoporose. Bravo. Voilà, donc c'est fait. Alors la carie des eaux, vous pouvez penser à l'ostéoporose. Et en fait, c'est quelque chose qui est voilà. Et c'est comme, voilà, c'est pas facile à réguler, n'est-ce pas? Alors je vais vous raconter l'histoire vraie qui est arrivée à un pasteur il y a des années. Hein. Ce pasteur se trouve être en conflit avec un de ses collègues. Et un conflit qui dure depuis des années. Et en fait, c'était un conflit de jalousie. Hein. Quand l'un réussissait, l'autre était jaloux, et ainsi de suite. Alors, quand je lui ai posé la question de l'origine de cette hostilité, il m'a dit, j'ai trouvé d'où ça vient. Suivez l'histoire. Hein. Ce pasteur a rendu visite à une sœur de l'église qui était en convalescence. Et cette sœur, dans la même chambre, était avec une autre chrétienne, mais de l'autre église. Et quand ce pasteur lui a rendu visite à cette sœur a dit devant l'autre, tu vois, mon pasteur, lui, me rend visite. Je ne suis pas oublié. Et patati et patata. Qu'a fait l'autre sœur? Et elle a pris dans les dents. Ouais, voilà. Elle est allée voir son pasteur. Tu vois, l'autre pasteur fait des visites et l'autre ça. Qu'est-ce qu'elle a créé? Un esprit de jalousie et de compétition. Ça a duré des années. Hein. Au lieu de voir l'autre comme un instrument de Dieu, la jalousie nous fait voir l'autre comme un rival, celui que je dois dépasser. Que se passe-t-il quand on n'arrive plus à rivaliser? Quand on n'a plus la force, quand l'autre nous a dépassé? Eh bien, vous savez, quand on n'arrive pas à s'élever, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on rabaisse. Hein. Eh oui, on rabaisse l'autre. Hein. On critique. Et on espère même, allez, de vous à moi, secrètement, on espère même sa chute. Hein. Mais on ne le dira pas. Hein. On le coupera. Que dit la Bible? Eh bien, revenons. Ne te réjouis pas si ton ennemi tombe. Aïe, quand il trébuche, que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse. Eh, quelque part, on est content. Ah, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Hein. C'est bien fait. Hein. Enfin, il y a une justice. Hein. Eh bien, quand on suit le verset 18 de Proverbe 24, il est dit « De peur que l'Éternel ne le voie et que cela ne lui déplaise. » Ah oui, Dieu n'aime pas, eh bien, ces réactions remplies de jalousie envers l'autre. Parce qu'un cœur nourri de jalousie fait naître la rivalité. Et voilà la paix qui s'enfuit. On ne peut pas être rivaux et être en paix, c'est clair, hein? Mon frère, ma sœur, si nous employons notre énergie, notre pensée à vouloir prouver hein, que nous sommes plus méritants, hein, eh bien, en réalité, nous finissons par détruire nos relations et détruire notre relation avec Dieu. Et c'est l'œuvre de la chair, Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, évidentes. Hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division. Hein. 1 Corinthiens 3, 3, ce que Paul dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Ah! Mais pourquoi t'as fait ça? Hein? Eh ben, le vieux prophète, il a aucun argument. Il a fait ça parce qu'il était jaloux de ce qu'il a pensé que l'autre était plus béni que lui. Alors moi, je pense qu'il a, sa jalousie l'a aveuglé. Ce matin, Bernard nous a parlé des actions secrètes de Dieu. En réalité, Dieu agit dans la vie de cet homme sans qu'il ne s'est rendu compte. Qu'est-ce que Dieu a fait? Le fait qu'il a envoyé un prophète de Juda, en réalité, Dieu a épargné ce prophète de Bethel des représailles possibles contre lui et sa famille de la part de Jéroboam. Dieu l'a préservé et lui a fait une mauvaise lecture de cela. Bien sûr, ils ont tous les deux rebelles. Hein, ils ont tous les deux été fautifs. Mais je crois que le plus coupable des deux, hein, c'est le vieux prophète. Il a été l'occasion de chute pour son frère. Et le lion l'attendait en chemin. Si nous ne veillons pas sur notre cœur, il y a un lion qui nous attend. Et nous savons qui il est. Hein, c'est le lion rugissant qui cherche qui il va dévorer. Et oui, nous donnons accès à l'ennemi. Alors, vous savez, cette jalousie existait aussi dans le cœur du fils aîné. Quand le fils prodigue est rentré, il est allé voir son père et il a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Lui, il n'a jamais travaillé. Il a pris tes biens, il les a dépensés avec des prostituées, il a fait la fête et toi tu l'accueilles. Mais tu es naïf ou quoi? Et moi qui ai travaillé pour toi, tu m'as même pas donné, dit le fils, un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Et quelle est la réponse du père? Mais mon fils, tout ce qui est à moi est à toi. En réalité, en regardant ce que Dieu fait, ce que Jésus fait, on peut dire, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as envoyé ton fils à la croix? Lui, il ne le méritait pas. Quelqu'un est-il jaloux de Jésus? Personne. Pourquoi? Peut-être les Sadducéens et les Pharisiens, mais aucun homme va dire, mais en fait, le chrétien dit, mais il n'a rien fait, lui. Même les passants qui étaient là, autour de la croix, disaient, mais il ne mérite pas ce qui lui arrive pour certains. N'est-ce pas? Seigneur, qu'as-tu fait à la croix? En réalité, à la croix, Jésus est allé jusqu'à partager ce pain et cette eau avec des pécheurs, afin de nous racheter. Il a donné son corps, ce pain. Il a versé son sang, cette coupe. Pourquoi? Pour que nous puissions nous être libérés du péché et retrouver la communion avec Dieu. Alors malgré tout, cette histoire finit bien. Quand même, bon, ça finit avec voilà un prophète qui est passé à la casserole. Hein, mais bon, ça finit bien car en fait, à la fin, on voit que le vieux prophète reste attaché à ce jeune prophète. Et je pense qu'il y a là une repentance genre Ancien Testament, hein? Ok. Aujourd'hui, ce serait plus compliqué. Enfin, il y a une sorte d'aveu. Que dit-il? En voyant ce prophète mort, eh bien, après l'avoir enseveli, il s'occupe de ses obsèques, il dit à ses fils, quand je serai mort, eh bien, vous m'ensevelirez avec lui dans la tombe, hein, où est l'homme de Dieu, et vous déposerez mes os à côté de ses os. Car c'est sûr, elle s'accomplira la parole de l'Éternel. Qu'il a crié contre l'autel de Bethel, car toutes les maisons des hauts lieux qui sont contre toutes les maisons qui sont dans la ville de Samarie. Et malgré tout, voyez la puissance de Dieu. Dieu a accompli son plan avec la participation coupable des hommes. C'est curieux, hein? Malgré tout, Dieu a accompli son plan. Pendant tout ce temps-là, Dieu œuvre. Dieu contrôle toutes choses. C'est l'homme qui doit supporter le poids de ses fautes. Hein, et de sa culpabilité. Dieu n'est pas coupable et responsable du péché de l'homme. Et pourtant, Dieu va tremper dans le péché son fils qui va subir pour nous la condamnation pour nous en sortir. Et oui, la parole de l'Éternel se réalisera. 300 ans plus tard, plus de 300 ans, un roi nommé Josias viendra et il exécutera à la lettre la parole de Dieu contre l'autel. Alors que retenir? Et on finit là. Eh bien, tout d'abord, l'amour n'est pas envieux. La jalousie est un thème, un sujet qui est très rarement abordé entre chrétiens. J'ai jamais vu un chrétien dire, alors, tu sais, je suis jaloux, moi. Ah bon, etc. Ben, voilà, hein, j'en veux un autre. C'est tellement en nous qu'on le cache. Hein, et on a peur que ça se découvre, n'est-ce pas? Eh bien, sachant que elle est bien présente, elle est destructrice. La réussite, la vie, la famille des autres suscite-t-elle en nous de la jalousie? Est-ce que nous manquons de reconnaissance de la part des autres dans ce que nous faisons? Ça aussi, ça peut susciter de la jalousie. L'idéal, c'est de demander à quelqu'un qui nous connaît bien, est-ce que je suis jaloux, hein? Alors, la clé est de demander à l'Esprit de Dieu de changer cela en te donnant un esprit de reconnaissance. Des fois, on perd la paix à cause de cela. Nous sommes, nous, les responsables de cette perte de paix. Demande à Dieu une meilleure attitude. Demande à Dieu de te donner la paix. Demande à Dieu de t'aider à te réjouir quand l'autre est béni. Ah, déjà, ça va avancer les choses. Je vais comme ça prier pour lui et je vais moins le détester et plus l'aimer. Car l'amour se réjouit quand il voit l'autre être béni. L'amour n'est pas envieux. La bonne question n'est pas, deuxièmement, n'est pas est-ce que les autres font mieux que moi? La bonne question est-ce que je fais moi de mon mieux avec fidélité? Ne regarde pas ce que font les autres. Remercie Dieu pour les dons que tu as. Il t'a accordé des dons uniques que les autres n'ont pas. Il a accordé aux autres des dons uniques que tu n'as pas. Et Paul dit, en fait, à Timothée pour l'encourager, il devait être débordé, il dit, écoute Timothée, mais toi fais juste une chose, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves. Il emploie le mot ouvrier. Alors l'ouvrier, c'est celui qui est placé sous l'autorité de Dieu. Nous ne sommes plus sous l'autorité du péché, nous sommes sous l'autorité de Dieu. Ça, c'est important à se le rappeler. La jalousie ne devrait pas prendre autorité sur nous. Et la troisième chose, eh bien, c'est que notre première motivation ne devrait jamais être la réussite ou la performance, mais de grandir avec Dieu. Et ce sont en fait, ce matin, on a entendu, voilà, que nous puissions célébrer la gloire de Dieu. Mais comment puis-je célébrer la gloire de Dieu à laquelle je suis appelé, hein, à laquelle nous sommes appelés, si je suis jaloux? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi Paul dit à ces Corinthiens qui rivalisaient, hein, il dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, si je suis en querelle, si je suis voilà dans l'hostilité contre l'autre, eh bien je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens, toute ma nourriture aux pauvres, quand je livrerai même mon corps à être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Mon frère, ma sœur, nous ne serons pas jugés sur nos réussites et sur nos échecs. Ça, c'est clair. Mais nous serons jugés sur notre capacité à aimer. Que Dieu nous accorde, par la puissance de son esprit, de nous purifier de ce conditionnement et de nous accorder, et qu'il nous accorde de vivre une vie reconnaissante et quotidiennement. Que Dieu vous bénisse. Amen.